Bonjour frères et sœurs, ce matin. Et oui, nous sommes de retour pour notre enseignement, notre exhortation, notre prédication du dimanche. Nous allons tourner dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Verset 1 jusqu'à 3. Le titre du message de ce matin, Prions pendant cette pandémie. Prions pendant cette pandémie. Alors, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée dans le premier livre, où il dit au chapitre 2, J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. La Bible exprime clairement la pertinence et la nécessité de prier pour ceux qui sont perdus et même de prier pour les autorités. Souvent, c'est quelque chose qui nous échappe car le bien-être de la communauté chrétienne nous préoccupe un peu plus. Nos frères et nos sœurs, les gens de notre famille, les gens que l'on connaît. Et c'est tout à fait normal. Mais si on prend l'exemple de la vie de prière du prophète Jérémie, qui avait l'habitude d'intercéder en faveur de son peuple, mais un peuple qui s'était éloigné de Dieu. Un peuple qui était en dehors des voies de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voyait aussi l'apôtre Paul qui priait également pour son peuple. Un peuple qui n'était pas nécessairement sauvé. On voit dans Romains chapitre 9, verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors, on voit la prière de l'apôtre Paul. Et je crois sincèrement que nous devons, avant toute chose, en tant que chrétiens, prier pour les inconvertis. Surtout en ce temps de crise. Et prier également pour nos autorités gouvernementales en place, qui sont, à mon avis, sous l'influence d'esprits maléfiques. J'écoutais il y a peut-être quelques semaines une personne au début d'un culte sur YouTube, un culte du dimanche, une personne qui priait pour chasser la COVID dans le nom de Jésus. Une prière, premièrement, une prière très audacieuse et irréfléchie, je pense. Et je ne crois pas que la Bible nous enseigne à faire cela. La Bible nous enseigne à chasser, oui, mais les démons, lors d'une possession démoniaque, intercéder dans un endroit précis pour éloigner les mauvais esprits, une maison, une église, dans un genre de situation très particulière. Mais cette prière spécifique d'un croyant, prière très fervente, je ne crois pas que c'est scripturaire. Alors, on ne doit pas, surtout dans ce temps ou un temps d'incertitude, d'élever des prières plus ou moins adéquates, genre de prières qui ne sont pas à propos. Quand on prie, frères et sœurs, on s'adresse à Dieu. Quand on s'adresse à Dieu, il faut être précis et il faut être scripturaire. Sinon, nous tombons dans un désordre. Donc, dans le passage à l'étude, il y avait des Juifs dans la ville d'Éphèse qui enseignaient que le salut n'était accordé qu'aux Juifs qui obéissaient à la loi. Et aux prosélytes païens. Aux prosélytes païens, c'est les gens qui décidaient de prendre position pour la loi juive, qui décidaient de suivre la loi juive. C'est pour ça que c'est le nom de prosélyte. Alors, les prosélytes païens qui observaient les rites mosaïques, la loi de Moïse, autrement dit. Il y avait aussi une élite religieuse et intellectuelle qui disait que le salut était réservé à ceux qui possédaient une connaissance secrète et mystique. Il y avait ce genre de pensée qui circulait dans l'Église. Et donc l'apôtre avait laissé à Timothée, à Éphèse, de l'Église d'Éphèse, pour amener l'Église sur le bon chemin. Et l'Église devait comprendre, il va sans dire, l'importance de l'évangélisation et par le fait même, le rôle de la prière. Et l'Église ne voulait pas prier pour les païens parce que justement, elle pensait que le salut n'était pas accessible à tous. Alors c'est pour ça que Paul est arrivé à Timothée et il dit avant toute chose, il dit, il faut prier. Le prédicateur Charles Spurgeon a dit dans le livre « Gagner des âmes, oui, mais comment? » Il a dit « Certaines mains, je le crains, se sont relâchées sur les rames et on prend à la légère les choses du royaume de Dieu. Beaucoup d'entre vous, et j'en loue Dieu, recherchez avec sérieux la conquête des âmes, autant favorable ou non. » Vous possédez une véritable sagesse, mais il y en a qui se contentent de me laisser prêcher en espérant que l'Assemblée prospérera point à la ligne. Alors, c'est évident que le prédicateur Charles Spurgeon disait, écoutez, il savait qu'il était appelé à la prière, à la prédication, mais il sait pas, il n'y a pas seulement la prédication. Il dit, mes amis, il faut prier. On revient à l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. Et il dit à Timothée, j'exhorte donc. En premier verset, j'exhorte donc. Il ne faut pas minimiser ce que justement l'apôtre Paul dit à Timothée. Il n'a pas dit je te suggère. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « je te conseille » et « je t'exhorte ». C'est évident qu'il y a une priorité. Il donne des instructions à propos d'Église. Autrement dit, « je t'encourage d'un cœur passionné. En premier lieu, je t'encourage. » Autrement dit, à prier. C'est votre devoir. C'est un exercice de consécration. Pourquoi j'exhorte donc? Et Paul voyait la nécessité de prier. Mais ce n'est pas facile non plus, là. Il voyait que, déjà là, demander à l'Église de prier. Souvent, et encore aujourd'hui, quand le monde est contre toi et contre l'Évangile, que le monde peut te persécuter ta famille, te mettre en prison. Et c'est encore évident dans plusieurs pays dans le monde présentement. Nous sommes au début de l'établissement de l'Église, quand Paul parle avec Timothée dans la ville d'Éphèse. Et n'oubliez pas, il y avait des obstacles à l'Évangile. Alors c'est plus qu'une suggestion. C'était vraiment sérieux. Je t'exhorte donc. Alors, c'était prioritaire pour l'apôtre Paul de dire à Timothée, écoute, je t'exhorte. Parce qu'il savait qu'il y avait de l'opposition. Il savait que l'Église avait de l'opposition. Il savait que dans l'Église, même dans l'Église, l'Église était peut-être divisée. Alors il dit, je t'exhorte donc, avant toute chose, voyez-vous comment les mots sont importants, avant toute chose, avant certains ministères, avant peut-être d'évangéliser, avant peut-être de prendre certaines décisions, avant de faire des œuvres, peut-être même de donner financièrement. Et je t'exhorte avant toute chose. Avant de prendre certains moyens pour. Et si on rapporte ça aujourd'hui dans nos assemblées, avant de faire quoi que ce soit face à notre situation, face à la situation que les églises vivent, que les chrétiens vivent, des situations qui sont un petit peu hors de contrôle. Les mesures du gouvernement de confinement, avant même certains propos peut-être, jusqu'à la manifestation, certaines églises manifestent. Autrement dit, avant n'importe quoi, avant toute chose, cela comporte tout. La première chose à faire, Timothée, je t'exhorte avant toute chose. Alors, on continue. Je t'exhorte avant toute chose à faire des prières. Il vient immédiatement, il tombe dans le sujet. À faire des prières. N'oubliez pas que Paul a dit prier sans cesse dans le livre de Thessalonique. C'est certain qu'on va revenir sur ce sujet à un moment donné, sur la prière. Évidemment, ça nous parle également aujourd'hui, dans un temps où l'Église est confinée et restreinte dans ses activités, à faire des prières. Avant que l'Église fasse d'autres choses, avant que l'Église mette des choses en place, parce qu'évidemment, les Églises présentement mettent des choses en place, à faire des prières. Et, frères et sœurs, ce n'est pas les sujets qui manquent. Comme vous le savez, des prières. Si Paul dit « prier sans cesse », c'est parce que mon ami a des choses à... Et là, il y a tout le monde de la prière qu'on peut... Là, on n'aura pas le temps de faire ça ce matin. Mais, et ce n'est pas les sujets qui manquent. Plus précisément, ce qu'on vit présentement, revenir à notre liberté, prier pour notre liberté, faire un choix judicieux pour des décisions qu'on a à prendre en tant que chrétien dans l'Église, prier pour les malades, les personnes seules, les démunies, les personnes démunies, les enfants, les écoles, tous les problèmes que cette pandémie occasionne, prier pour nos gouvernements. Et notre système de justice, pourquoi pas? Alors, bref, remettre des situations dans les mains de Dieu. Au lieu de jongler avec les situations, au lieu de montrer notre mécontentement sur les réseaux sociaux, de faire certaines actions qui vont diviser l'Église. Parce que présentement, les gens sont divisés. L'Église peut être divisée. Et ça fait plaisir à l'ennemi. On remet la situation entre les mains de Dieu et on prie pour le monde extérieur. Faut pas oublier une chose. Et très importante, une chose très importante, c'est pour Dieu... Le monde est actuellement, peut être réconcilié par, vous savez, par le sang de Jésus sur la croix. Puis la plupart des hommes l'ignorent. Ce qui les empêche de bénéficier de cette réconciliation avec Dieu. On ne se cachera pas, là. Alors, le monde est présentement sous une domination diabolique. Puis ceux qui ont échappé à cette domination sont ceux qui se sont réfugiés justement en Christ. Les gens qui se sont repentis de leurs péchés, qui qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Tous ceux-là, tous ceux qui ont fait cela, ont été libérés de la puissance des ténèbres, comme Colossiens le dit, ont été transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Et seulement les chrétiens, seulement la personne qui est née de nouveau, a une autorité de la part de Dieu pour intercéder auprès de lui pour un monde perdu. C'est pour ça que Paul parle de prière et non pas d'œuvre. Écoutez, là, personne d'autre n'est autorisé, n'a cette autorité de la part de Dieu. Peu importe la religion, peu importe les bonnes œuvres, je m'excuse, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le problème demeurera toujours un problème spirituel. Puis la position des enfants de Dieu, membres de l'Église de Christ, c'est une position de victoire et de domination sur les ennemis. Puis nos véritables ennemis, ce n'est pas ton voisin, ce sont les principautés dans les puissances des ténèbres qui agissent sous l'autorité de leur maître Satan. D'où la nécessité de prier, voyez-vous? Puis au travers de cette situation que l'on vit, cette dictature sanitaire qu'on doit subir présentement, l'ennemi est en train de préparer le monde à sa venue. Il est en train de préparer les gens pour qu'ils reçoivent une marque, pour que le monde puisse l'adorer. Mais ce n'est pas encore le moment. Mais il ne pourra le faire cette marque-là ne pourra pas être imposée tant aussi longtemps que l'Église ne sera pas partie. Tant que la lumière brille, les ténèbres ne peuvent arriver. C'est pour ça que c'est le moment présentement de prier, d'intercéder pour la situation actuelle, parce qu'on approche du temps de la fin. Et Paul dit prier, à faire des prières, prier. Il va dire même jusqu'à des supplications. Wow! Intercéder. Quand tu es rendu à la supplication, c'est une prière qui s'adresse spécifiquement à Dieu, contrairement à la prière générale, qui peut toucher d'autres gens. Mais quand tu supplies, c'est une supplication. C'est une prière qui renferme un élément unique d'adoration et de révérence envers un Dieu souverain. Intercéder, supplier, c'est insister auprès de Dieu pour une situation quelconque qui amènera nécessairement à donner gloire à Dieu, effectivement, et d'être dans une attitude d'humilité. Et certains événements vont amener le croyant justement à insister auprès de Dieu tant la situation est dramatique. Et à mon avis, je crois que oui, prier et même intercéder, supplier le Seigneur pour voir clair dans cette situation, la situation qu'on vit présentement. Faire des supplications, ça demande beaucoup d'efforts. À faire des requêtes également. Faire des supplications, mais faire des requêtes. C'est un mot qui, dans le terme grec, qui apparaît pas tellement souvent dans le Nouveau Testament, ça veut dire faire des requêtes, c'est prendre part avec quelqu'un. Prendre part avec la participation du Saint-Esprit, de Christ, dans notre lutte, dans la prière. Cela évoque également la sympathie, la compassion, l'engagement. Ça veut dire que quelqu'un qui prend part à la prière pour les non-croyants est donc ni indifférent ou ni froid avec ce qu'il demande au Seigneur. Autrement dit, il défend la cause du non-croyant devant Dieu. Parce qu'il voit qu'est-ce qui s'en vient. Une ruine éternelle. Je continue à faire des actions de grâce. Savez-vous que c'est la seule prière qui va durer éternellement? Lorsqu'on va être au ciel, on n'aura pas à prier pour les gens. Mais on va faire des actions de grâce. On va remercier Dieu. On va donner la gloire à Dieu. Ça, c'est éternel. C'est une prière éternelle. Des actions de grâce, c'est une prière éternelle. Si les gens disent, « Ah, ben moi, les actions de grâce, j'en fais pas tellement. Ah, ben mon ami, t'es mieux de commencer parce que ça finira jamais. » Priez Dieu avec gratitude. Premièrement, pour avoir eu le privilège d'entendre l'Évangile. Le privilège d'avoir cru et de répandre cette bonne nouvelle. Et plus que ça, de voir certaines personnes se repentir, c'est extraordinaire. De pouvoir apporter la vie à des gens. C'est plus que prier. Voyez-vous, oui, on prie pour les gens, mais il y a des gens qui vont, à cause de nos prières, il y a des gens qui vont se repentir, qui vont être sauvés. Même si on ne sait pas, même si on ne voit pas nécessairement le résultat. C'est spirituel. Alors, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et l'apôtre Paul continue pour tous les hommes. Ben oui, on prie pour tous les hommes. Parce que Dieu commande à tous les hommes de se repentir. Et on prie pour que ces gens-là reçoivent le salut. Dieu ne fait exception de personne. Même si on sait que Dieu sait d'avance, mais Dieu ne fait exception de personne. Il y a une omniscience, Dieu connaît tout. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus sait, il dit, je vais bâtir une église. Et il sait déjà qu'il va y avoir tant de personnes dans l'église. Mais, on ne sait pas, on prie pour des gens qui vont être sauvés. Et c'est le salut qui va régler le sort de l'humanité. Ce n'est pas un vaccin. Si les gens pensent que c'est un vaccin, et je disais ce matin que de plus en plus on parle d'une réglementation, d'un passeport vaccinal, comme de quoi que là, les gens vont pouvoir aller dans le monde, vont pouvoir voyager, arriver dans certains pays, montrer leur vaccin, leur preuve vaccinale, comme de quoi, écoutez, tout revient à la normale, moi je suis immunisé, puis oh boy! On n'est pas là, frères et sœurs. Ce qui va régler le sort de l'humanité, c'est le salut, c'est d'être sauvé. Alors il dit, pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, quand même important. Pourquoi? Il faut bien comprendre que on parle de, si on retourne dans le temps de Paul, les souverains de l'Antiquité, et même je dirais aujourd'hui, là, se montraient souvent tyranniques envers Dieu et envers Dieu et son peuple. Les souverains à l'époque de l'Antiquité vivaient très distant du peuple. Il était à l'écart des croyants. Puis honnêtement, il y avait une certaine indifférence. Alors, comment ça se fait que Paul, quand est-ce que ça a commencé de prier pour les rois, pour les ceux qui sont élevés en dignité? Cette pratique-là a commencé par le culte des Juifs de la diaspora. Quand les Juifs ont été forcés de quitter Jérusalem, on voit ça dans Jérémie, chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Le peuple juif était en captivité. « Et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Écoutez, là, vous êtes à l'extérieur, Vous voulez que les gens, les rois aient un bon fassent quelque chose de bien pour vous, priez l'Éternel. Puis lors du retour des Juifs, les Juifs sont revenus dans leur pays, comme on sait. Et les Juifs ont continué à avoir cette attitude de prier pour les rois. Quand le roi Darius a dit au peuple qu'il pouvait retourner à Jérusalem, prier pour le roi, c'est une expression de loyauté. Parce que c'est le roi Darius qui a permis au peuple de revenir à Jérusalem. Puis dans le temps de Paul, les prières publiques pour l'empereur, pour les gouverneurs, les autorités locales montraient que les chrétiens étaient de bons citoyens dans la société. C'était également une façon de répandre l'Évangile. Quand on dit, écoutez, oui, je vais prier pour toi, je vais prier pour ta situation, tu répands l'Évangile aussi. Puis la pensée de l'Église dans le Nouveau Testament, c'était des prières publiques. On voit moins ça aujourd'hui, mais on priait publiquement. Il y avait le temple, n'oubliez pas, il y avait le temple encore, là. Dans le temps de Jésus, là, les prières, c'était des prières publiques. Oui, il y avait les synagogues, mais il y avait des prières publiques. Alors, c'est une façon de montrer qu'on était des bons citoyens. Et encore aujourd'hui, on va dire ça, on va prier pour les gens. Et Paul demandait à l'Assemblée de prier en faveur, entre autres, dans le temps d'Éphèse, de l'empereur, qui était un homme qui était cruel, blasphémateur, un empereur qui était dépravé, persécuteur de chrétiens. Puis l'apôtre Paul insiste pour qu'on prie pour les rois. C'est pire qu'aujourd'hui, là. Comment que c'était dur pour le monde de prier pour ces gens-là? Puis nous autres, en plus, on a toute l'histoire, on a toute la Bible, on a tous nos enseignements, et souvent, des fois, on trouve ça difficile. On doit prier pour les autorités. Parce qu'à cause qu'ils sont sous l'emprise du malin, souvent nos dirigeants ont des négligences. Et ils ont une très, très grande autorité, une responsabilité devant Dieu. Et c'est souvent, des fois on se demande si vraiment ils savent que c'est Dieu qui leur a donné cette autorité-là. Alors il faut prier pour les dirigeants. Les chefs d'État, mais on ne veut pas prier pour que ces gens-là soient démis de leur fonction. Parce que dans Romains chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5, c'est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alors, ce n'est pas à nous autres de juger ce qu'ils font, même s'ils ne font pas ce qu'on pense qu'ils devraient faire. On doit prier, prier pour leur salut, prier pour qu'ils changent leurs décisions. Et ne pas prendre part quand même à leurs décisions et dire, moi, je suis nécessairement pour le gouvernement. Si c'est un gouvernement qui est athée, qui est totalitaire, c'est pas ça que la parole. La parole nous dit d'être soumis, d'avoir une certaine soumission. Et encore là, comme je vous ai dit tout à l'heure, nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, c'est Paul qui parle, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Alors, pour sauver un pays, c'est la prière. C'est sauver des pécheurs. Parce qu'on sait que le diable qui se déguise en ange de lumière pour agir dans le monde travaille par la séduction et la tromperie. Et si on est dans cette crise-là, c'est l'ennemi qui amène cette soumission-là, ces privations de liberté, sous prétexte que c'est une protection de la santé publique et c'est une question de sécurité. Et dans le temps de Paul, dans le temps de Jésus, c'était la même chose. L'ennemi se servait des autorités. Les pharisiens, et je vais aller plus loin, Hérode et Pilate. Afin de dominer le monde, Satan se sert des autorités religieuses, apostates et des gouvernements. Cela n'a pas changé. La Bible est encore actuelle. Mais nous, l'Église du Seigneur, on voit ces choses-là. Bien, on est supposé de voir ces choses-là. Les œuvres de l'ennemi, on serait supposé les voir. Et je suis toujours un peu étonné de voir certains chrétiens embarqués présentement dans un régime qui s'en vient très totalitaire, très tyrannique, comme autant des chrétiens à l'époque. Et ne pas voir, pas avoir le discernement. Pourtant, c'est nous, la lumière du monde, c'est nous. Puis tant aussi longtemps qu'on est sur la terre, on a un certain pouvoir spirituel par la prière. C'est seulement l'enlèvement de l'Église qui marquera le début du ministère de cet homme-là. Mais présentement, c'est encore nous qui avons cette possibilité-là de changer certaines choses par la prière. Modifier le cours actuel des choses. Pas modifier au complet, retarder, pourquoi pas. Retarder les plans maléfiques de l'ennemi, pourquoi pas. Qu'est-ce que Paul a dit aux Thessaloniciens? Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, on parle de l'enlèvement, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Paul parle à l'Église dans ce temps-là. Il dit, arrêtez d'être troublés. Là, il y a quelque chose qui se passe que vous ne comprenez pas. Ayez un discernement. Et là, il explique deux choses. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu, lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Après ça, il continue, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Puis là, Paul, il finit par quelque chose aux chrétiens, il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. On sait que l'homme du péché ne peut pas arriver. Mais il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire, déjà, il y a des choses qui se passent, que c'est le monde des ténèbres. Il y a le mal qui agit. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Il revient encore à la chair. C'est le Saint-Esprit. En ce moment, c'est le Saint-Esprit qui retient toutes les œuvres des ténèbres. Le Saint-Esprit retient le mal. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui a cette force-là de retenir le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il faut prier. On prie pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. On prie pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Mais lorsque le Saint-Esprit va disparaître, ça va être terminé. Alors, c'est le temps présentement, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors, on parle de l'enlèvement de l'Église. Puis il dit clairement, cet enlèvement ne se produira pas avant que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché. Dans le verbe grec, paraître, ça veut dire apocalypto, d'où vient le mot apocalypse, paraître aux yeux de l'Église fidèle. Alors, on va voir des choses, il y a des choses qui vont arriver. On va pouvoir discerner des choses. Alors, il faut discerner qu'est-ce qui se passe présentement, si c'est le début du temps de la fin. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui le retient? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est omniprésent. Et même le Saint-Esprit va être là dans le temps de la tribulation. Mais le Saint-Esprit n'aura pas le même rôle. Le Saint-Esprit qui retient le mal aujourd'hui ne sera pas... Son rôle va être différent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Mais le Saint-Esprit ne sera pas manifesté avec puissance, comme au jour de la Pentecôte. Alors, ça va être des temps très, très durs, mes amis. D'où l'importance de la prière. Alors, on a la responsabilité d'exercer notre influence, je dirais une influence modératrice, restrictive, contre l'ennemi. Alors, je continue dans mon texte. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » Si je reviens dans mon texte, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, « afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » Dans le terme grec, ça veut dire « absence de perturbation. » Prier. Quand les croyants se consacrent à la prière, exemple, en faveur de leurs dirigeants, cela les libère de toute pensée de rébellion ou de résistance. Je ne parle pas de soumission, là. Oui, d'être soumis, je ne parle pas de oui, il faut être soumis, on peut avoir une opinion, mais non des gens réactionnaires. Autrement dit, la prière, elle nous amène dans une autre dimension, à voir ces choses-là d'une autre dimension. Ça enlève la pensée, notre pensée charnelle, autrement dit. Vous comprenez? Tite, l'épître de Tite, chapitre 3, verset 1, rappelle l'heure de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute bonne œuvre. De leur obéir. Oui, ça prend un masque, on va le mettre, le masque. On ne s'en ira pas dans des endroits pour dire « Moi, je suis rebelle, je sais que c'est pas bon pour la santé, je sais que c'est il y a des buts maléfiques à travers cela. » On sait tout cela. Mais on va le porter quand même. Ce n'est pas la bonne façon d'être réactionnaire face à cela. Mais de se soumettre à ça. C'est un exemple que je vous donne. Dans le titre, je reviens dans le titre, d'être se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute bonne œuvre et de ne calomnier personne. D'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Écoutez, c'est l'histoire de Jésus, là. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie. Bon. On est ambassadeur ici, du royaume des cieux. On n'est pas une menace. L'Église n'est pas une menace. Les chrétiens, ce sont des gens qui sont rassurants. Mais il ne faut pas passer. On n'est pas des réactionnaires, on n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas des rebelles. On est des gens pacifiques. Comme Christ l'a été. Puis quand l'Église prie pour les âmes perdues, pour les dirigeants, c'est sûr qu'ils voient en nous des gens pacifiques, compatissants, se souciant de leur bien-être. On veut avoir une vie paisible, même dans ce temps de crise. Alors, je continue. En toute piété et honnêteté. En grec, la traduction grecque nous amène à une notion de révérence envers Dieu, de vivre de manière digne de la gloire de Dieu, dans l'honnêteté, dans une moralité consciencieuse, une bonne attitude. Les croyants doivent donc se distinguer. On veut pas compromettre nos valeurs morales. Mais on veut avoir une conduite adéquate. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas qu'il va y avoir des temps faciles. Paul va dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On n'est pas à l'abri de persécutions futures, frères et sœurs. Mais même dans ces temps d'incertitude, l'Église doit mener une vie paisible. En terminant, voici une parole de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Écoutez, c'est Jésus qui le dit. Là, je parlais de l'apôtre Paul, mais là, on tombe dans une autre classe. Là. On tombe avec Jésus qui nous dit ça. C'est Dieu qui nous dit ça. En terminant, on ne pourra jamais arrêter l'arrivée d'un nouvel ordre mondial. Appelez-le comme vous voulez, là. Moi, j'appelle ça d'un gouvernement totalitaire, de quelque chose qui va. On ne pourra pas empêcher des temps apocalyptiques, ni l'arrivée de l'homme impie, parce que ça a été prophétisé dans la Bible. C'est impossible. Puis ça fait partie en quelque sorte du plan de Dieu. Mais tant que l'Église ne sera pas enlevée, c'est elle qui dispose sur le monde toute l'autorité et le bon discernement spirituel. L'autorité de Dieu, le discernement spirituel, c'est nous. Je m'excuse, c'est personne d'autre dans le monde. C'est l'Église. Jésus est mort pour son Église. Et seulement pour son Église. Alors, je dirais, frères et sœurs, soyons à l'œuvre pendant qu'il fait encore jour, car la nuit vient bientôt. Amen.